ne veut pas te dire où se trouve le QG des féministas.
Oui, évidemment.
Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain les FN.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
Est en pouvoir du diable.
Je ne pense pas que ce soit une sorcière.
Abracadabra !
Qu'est-ce que c'était ?
Je suis revenue pour te jeter un sort de ma composition. Abracadabra !
C'est quoi ce truc? C'est fait avec du serpent.
Vous avez été transformé par la magie. La magie est partout ici. Elle est dans la terre, dans l'eau, en nous.
Ça va quand même très loin, là.
Sorcière ou pas, c'est une personne digne d'intérêt.
D'accord, allons nous intéresser à elle. Les gens vous considèrent comme une sorcière.
Pourquoi on fait ça dans les bois? Pourquoi doit-on faire ça avant l'aube? Pourquoi? Tu crois que des réponses sauveraient ton âme?
Je pratique aucun rituel, d'accord? Je suis pas une sorcière ou une chamane ou je sais pas quoi d'autre.
On n'a donc ni loup-garou, ni sorcière.
On va se concentrer sur de bonnes vieilles preuves matérielles.
Peut-on parler de maladie quand une enfant veut s'envoler? Elle veut s'envoler? 20 fois j'ai dû la retenir.
Et la voilà, la preuve, la sorcellerie est manifeste.
Non, madame. Et je dois vous avertir que je n'entreprendrai rien. Si vous n'êtes pas prêts à admettre que je ne trouverai peut-être ici aucune trace de l'enfer.
Tu vis près d'une autoroute?
Non.
Tu utilises un four à micro-ondes? Tu téléphones avec un portable?
Comme tout le monde?
Pas moi. Toute cette pollution et cette technologie, c'est ça le vecteur du démon. C'est pour ça que j'habite dans les bois, loin de toute civilisation.
Pat lavait les taches de rousseur, sale sorcière.
Puis une sorcière? La vérité, c'est que j'ai été 11 fois mère et 26 fois grand-mère.
Causez peut-être ça, en pratiquant certains de vos rituels.
C'est quoi ton problème?
Les bonnes femmes. C'est toujours les bonnes femmes qui nous collent des tas de problèmes.
Non, mon gros bêta.
C'est le malin qui grandit en moi.
Dans ce cas, la chasse est ouverte.
Tu dis n'importe quoi! Il y a du sang sur tes doigts.
Salut, ce mois-ci, le malin est en nous et il nous habite. Vous vous demandez si on est devenu vieille avec un nez crochu et des verrues?
Mais non, nous avons gardé notre sublime apparence. Après avoir lu plein d'horreurs sur ces diablesses qu'étaient les sorcières, nous avons eu envie de vous faire partager une bonne tambouille maison à base de baves de crapaud et de langues de vipère.
Martyrs d'une époque misogyne et proie de l'Inquisition, les sorcières auraient été 100 000 à être torturées, brûlées vives, pendues ou que sais-je encore.
Jean Delumeau décrit dans son livre « La peur en Occident, un long processus de diabolisation de la femme auquel nous nous sommes intéressés ». Cette diabolisation s'appuyait entre autres sur le mystère que représentait le corps féminin, sur ses différences avec celui des hommes, sur son fonctionnement cyclique et sur sa sexualité. Rappelons qu'à l'époque, les représentations de l'anatomie de la biologie n'étaient pas ce que l'on imagine aujourd'hui. Beaucoup de phénomènes corporels expliqués aujourd'hui, comme la procréation, passaient alors pour de la magie et créaient de nombreuses superstitions et croyances populaires.
En effet, dès l'Antiquité, on trouve des déesses mères à la fois déesses de la vie et déesses du royaume des morts. La figure féminine, parce qu'elle donne la vie, donne aussi inévitablement la mort. Elle donne donc à l'homme l'impression d'être en lien avec des processus magiques, d'avoir percé certains secrets de la nature et de les maîtriser.
Si l'on rajoute à cela un brin de dégoût, une pointe de mépris pour tout ce que sont les odeurs, les menstruations, les flux, les liquides d'accouchement, qui se trouvent en contradiction avec le désir éprouvé pour l'autre sexe, on obtient un cocktail d'incompréhension, de frustration, de jalousie. Sur ce terreau fertile, l'Église développa une argumentation religieuse pour faire passer la femme du côté du mal et justifier sa soumission. Elle exacerba le dualisme entre l'enfer et le paradis, Dieu et Satan, ou l'homme et la femme. Ainsi dans l'Évangile selon saint Paul.
Ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme.
Le Moyen-Âge chrétien va asseoir les griffes misogynes. Un exemple, Tertullien, un écrivain chrétien.
Tu devras toujours porter le deuil, être couverte de haillons et abîmée dans la pénitence, afin de racheter la faute d'avoir perdu le genre humain. Femme, tu es la porte du diable. C'est toi qui as touché l'arbre de Satan et qui, la première, a violé la loi divine.
L'abbé de Cluny, 10e siècle.
La beauté physique ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Quand nous pouvons toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous embrasser ce sac de fientes ?
Marbord, l'évêque de Rennes au 11e siècle.
Parmi les innombrables pièges que notre ennemi rusé a tendus à travers toutes les collines et les plaines du monde, le pire est celui que presque personne ne peut éviter, c'est la femme. Funeste cèpe de malheur, bouture de tous les vices qui a engendré sur le monde entier les plus nombreux scandales, la femme, doux mal, à la fois rayon de cire et venin, qui d'un glais vendu de miel perce le cœur même des sages.
Et enfin, prêche de saint Bernardin.
Y a-t-il à balayer la maison ? Oui, oui, fais-la lui balayer. Y a-t-il à relaver les écuelles ? Fais-les lui relaver. Y a-t-il à faire la lessive ? Fais-la lui faire dans la maison.
Mais il y a la servante.
Qu'il y ait la servante. Laisse faire à elle, l'épouse, non pas par besoin que ce soit elle qui le fasse, mais pour lui donner de l'exercice. Fais-lui garder les enfants, laver le linge, les langes et tout. Si tu ne l'habitues pas à tout faire, elle deviendra un bon petit morceau de chair. Ne lui laisse pas ses aises, je te dis. Tant que tu la maintiendras en haleine, elle ne restera pas à la fenêtre et il ne lui passera pas par la tête tantôt une chose, tantôt une autre.
Avec tant de propagande, la femme diabolisée est alors une cible facile et devient sorcière, surtout si elle est seule, boiteuse, laide ou en prise de liberté. L'Inquisition ne fait que s'emparer d'un mythe déjà existant. Stigmatiser la différence doit être vieux comme le monde. Quant à la misogynie, déjà présente traditionnellement dans tous les milieux, elle trouve là une justification morale et l'aval de la religion. C'est pourtant à la Renaissance que la chasse aux sorcières sera la plus meurtrière en Europe. L'invention de l'imprimerie et la diffusion des cris dévastateurs des inquisiteurs sur les femmes, et en particulier sur les sorcières, y jouent un grand rôle. On retiendra le Malleus Maleficarum d'Alvaro Pelayo, ou encore le catalogue des 200 vices de la femme.
La chasse aux sorcières n'était pas seulement attaquer les femmes, c'était aussi attaquer des rites et des traditions païennes. On peut souligner là un paradoxe de l'Église qui à la fois s'empare des fêtes populaires pour les faire siennes, et en même temps réprime sévèrement les traditions préexistantes. Les sorcières et les sorciers formaient une communauté spirituelle dissidente. Détenteurs de savoir et de connaissances sur la nature, ils représentent une menace pour la morale civilisatrice de l'Église. De manière consciente ou non, on peut dire que les sorcières ont servi de bouc émissaire à l'Église, qui affirme par là son identité et son pouvoir à une époque où les guerres de religion éclatent. It's been so long that I can't be sure, and it's been so long.
voudrais plus de relégatoyous. Je voudrais plus de relégatoyous. Je voudrais plus. Sound, sound.
Certains auteurs nous assurent que, peu de temps avant la victoire du christianisme, une voix mystérieuse courait sur les rives de la mer Égée, disant « Le grand Pan est mort ». L'antique dieu universel de la nature était fini. Grande joie ! On se figurait que, la nature étant morte, morte était la tentation. Troublée si longtemps de l'orage, l'âme humaine va donc reposer. S'agissait-il simplement de la fin de l'ancien culte, de sa défaite, de l'éclipse des vieilles formes religieuses ? Point du tout. En consultant les premiers monuments chrétiens, on trouve à chaque ligne l'espoir que la nature va disparaître, la vie s'éteindre, qu'enfin on touche à la fin du monde. C'en est fait des dieux de la vie qui en ont si longtemps prolongé l'illusion. Tout tombe, s'écroule, s'abîme, le tout devient le néant. Le grand Pan est mort. Ce n'était pas une nouvelle que les dieux dussent mourir. Nombre de cultes anciens sont fondés précisément sur l'idée de la mort des dieux. Ici, c'est bien autre chose. Les premiers chrétiens, dans l'ensemble et dans le détail, dans le passé, dans l'avenir, maudissent la nature elle-même. Ils la condamnent tout entière, jusqu'à voir le mal incarné, le démon dans une fleur. Viennent donc, plutôt que plus tard, les anges qui jadis abîmèrent les villes de la mer morte. Qu'ils emportent, plient comme une voile, la vaine figure du monde. Qu'ils délivrent enfin les saints de cette longue tentation. L'écroulement de l'Empire et l'invasion des barbares donnent espoir à saint Augustin qu'il ne subsistera de cité bientôt que la cité de Dieu. Qu'il est pourtant dur à mourir, ce monde, et obstiné à vivre. Il demande comme Ezéchia un répit, un tour de cadran.
Oh, tu sais, l'ami, je n'ai jamais été aussi content que ce matin-là. Nous marchions dans un champ de betteraves, un peu comme celui-ci d'ailleurs. Nous aperçûmes des filles de bien belles cuisses, me dis-je. Il y a une expression qui n'existe que dans le nord de la Boucravie. Là-bas, on les appelle les sorcières.
Les sorcières, Boucrave, sont hot, hot. N'ont pas besoin d'un mac. Les stars d'usine hot ont pris une claque. Car les sorcières, Boucrave, sont hot, hot. N'ont pas besoin d'un mac. Les stars d'usine hot ont pris une claque. Chimie entre elle et toi, t'es le roi des je ne sais quoi. Si tout croque dans ses pommes, tout ne pourra plus résister à tous les longs baisers qu'elle aime éparpiller. Car les sorcières, vos graves sont hot, hot, n'ont pas besoin de mac. Les stars, vous y les hot, ont pris une claque. Car les sorcières, vos graves sont hot, hot.
Et
tout de suite l'interview sur les sorcières avec Jean-Michel Cosson.
Ça fait depuis un certain nombre d'années maintenant que je m'intéresse à l'histoire du département sur plusieurs formes, et en particulier notamment sur tout ce qui est croyances, superstition dans le département, mais aussi sur tout ce qui a été mystère, et puis aussi sur les grandes affaires criminelles, sur lesquelles j'ai écrit plusieurs ouvrages. Voilà. Dans le parcours littéraire, il date de à peu près 1990, avec aujourd'hui une trentaine d'ouvrages écrits à la fois sur Aveyron, mais aussi au niveau national. Voilà, un parcours, tout ce qu'il y a de plus simple.
Vous êtes professeur d'histoire aussi ?
Voilà, je suis professeur d'histoire et géographie, voilà, dans un lycée de Rodez.
D'accord. Ouais.
Et puis aussi impliqué au niveau municipal, la communauté d'agglomération, puisque j'ai en charge le tourisme au niveau du Grand Rodez. Voilà.
Poser quelques questions sur les sorcières. Y a-t-il eu beaucoup de sorcières en Aveyron et est-ce que vous connaissez quelques histoires ?
Alors, c'est difficile à quantifier parce que malheureusement, on n'a pas toujours les documents qui nous permettent de pouvoir dire il y en a eu tant ou tant. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des procès de sorcellerie, à la fois pour des hommes, hein, mais c'est vrai plus particulièrement pour des femmes. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve ces documents surtout dans la région de Millau. Et par contre, beaucoup moins dans la région ruthénoise, hein, ou dans le nord du département, même si j'ai une histoire dans l'Aubrac avec un couple d'étrangers qui passe dans l'Aubrac et qui, pour vivre, vend des brins et des bords. Et il se trouve que malheureusement, au moment où ils passent et au moment où ils vendent ces brins de l'ébord, il y a les troupeaux qui tombent malades sur Aubrac. Alors, un troupeau qui tombe malade, c'est une catastrophe pour les agriculteurs de cette région. Et évidemment, aussitôt, hein, la réaction, c'est quoi ? Ben, c'est eux, hein, qui, en passant, ont jeté un mauvais sort sur nos bêtes. Non, ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les arrêter, hein, il faut les interroger. Et évidemment, s'ils avouent pas, il faut les torturer. Hein. Et finalement, ils avouent, certainement contraints et forcés. Hein, et puis, eh ben, évidemment, ils sont condamnés. Et vous savez quel est le sort qu'on réserve aux sorciers et aux sorcières qui ont avoué ? Ben, c'est le bûcher, la dispersion de leur cendre. On a cette histoire-là, puis on a cette histoire aussi, dans la région de Millau, hein, qu'on a retrouvé. Voilà, on a vraiment les documents, donc on sait que ça s'est réellement passé. Or, qu'est-ce qui se passe en général ? La question est pourquoi on devient sorcier ou pourquoi on devient sorcière et comment on le devient ? Alors, je crois qu'il y a, plusieurs choses. Il y a déjà la peur. Un troupeau tombe malade, hein, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est pas normal, donc il y a quelqu'un qui a certainement jeté un sort, vu évidemment les connaissances qu'on a en médecine à cette époque-là. Ensuite, il y a les superstitions, hein, qui sont relativement importantes, je dirais quasiment jusqu'au début du 20e siècle. Il y a la rumeur, hein, qui fait son chemin, et qui sait si la rumeur est parfois un gros danger. Et on arrête ces gens-là parce que on trouve que telle personne a un comportement bizarre. Hein. Il y a aussi un peu un délit de sale gueule. Hein, c'est-à-dire, il suffit qu'on ait un visage un peu marqué, hein, qu'on soit un peu différent des autres, qu'on vive aussi à l'écart, hein, de la communauté. Et c'est vrai que les sorcières souvent habitent à l'écart des villages, même parfois, hein, en bordure des forêts, dans la rumeur court. Et puis il y a la délation, hein, c'est-à-dire on fait arrêter les gens, non pas parce qu'on est sûr qu'ils sont sorciers ou sorcières, mais parce qu'on veut s'en débarrasser. Hein, et la délation, je veux dire, elle a couru à toutes les époques. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes quand même plus ou moins importantes de sorcellerie et de lutte, hein, contre les sorciers, contre les sorcières. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a trouvé à l'hospitalier du Larzac, lors de recherches archéologiques, deux plaques en plomb, hein, avec un texte écrit là-dessus. Hein, c'est le plus long texte gaulois qu'on ait pu trouver. Et sur ce texte-là, il est question d'une sorcière. Une sorcière qui s'appelle Gemma, qui a certainement été arrêtée et qui a été tuée, hein, et que l'on a enterrée avec ces plaques de plomb où on devait expliquer pourquoi on l'avait arrêtée, pourquoi on la considérait comme une sorcière. Quoi. Il y a, la sorcellerie, c'est vraiment quasiment à toutes les époques. Voilà.
Quelle joie ! Vous croyez en l'existence des sorcières ?
Bien avant l'Inquisition, il y avait déjà des chasses aux sorcières.
On peut penser... c'est surtout au moment de l'Inquisition, ouais. Quand même. Bon, il y en avait certainement avant. Hein. Le fait... ce qu'on peut appeler le mythe des sorcières et des sorciers, c'est surtout à l'époque de l'Inquisition, à partir du 15e et puis 16e siècle, puisque finalement, c'est en 1670 que les tribunaux français refusent, à partir de cette date-là, de prendre justice contre les sorciers, contre les sorcières. C'est-à-dire, à partir de là, c'est réglé, hein, on ne peut plus accuser quelqu'un de sorcellerie, on ne peut plus condamner quelqu'un comme sorcière. Alors c'est vrai qu'il y a eu la période, surtout 15e, 16e siècle, où alors toute l'Europe se prend à craindre la sorcellerie. C'est aussi lié avec tout ce qui est les recherches alchimiques, vous savez, fondre le plomb pour en faire de l'or, etc. Bon, je veux dire, Léonard de Vinci a trempé là-dedans, etc. Et c'est à peu près à la même époque qu'il y a ces procès en sorcellerie qui sont menés par une redoutable organisation qui s'appelle l'Inquisition, qui avait déjà lutté contre les cathares à l'époque donc des albigeois et du catharisme, et qui a ensuite continué et a lutté notamment, c'est eux qui instruisaient les procès contre les sorciers et les sorcières. Toute l'Europe, je vais imaginer ça, mais c'était un véritable bûcher aux sorcières. Hein. Et c'est vrai que bon, on ne s'embarrassait pas. Hein. Il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui dénonce une personne pour qu'on l'arrête. De toute manière, la justice à cette époque-là, c'était très simple. Ou on avouait, on était coupable, hein, ou on n'avouait pas, hein, c'est qu'on ne voulait pas avouer. Donc on était aussi coupable. Hein. Bon, après quelques tortures, etc., généralement, on avouait. On a un cas, par exemple, d'une sorcière qui s'appelle Béatrix Juliana, à Mignot, à qui, pour la faire avouer, on lui enduit les pieds de graisse, hein, et puis on approche des braises de ses pieds. Si elle avoue pas, les braises se rapprochent des pieds, évidemment, elle crame avec la graisse. Hein, et quand elle commence à avouer, on retire les braises, etc. Ouais, donc, c'était des moyens pour faire rapidement parler les gens.
Et Béatrix, vous savez de quoi elle était accusée exactement en sorcellerie ou...
Ça dépend des cas. Alors, soit il y a des troupeaux qui tombent malades, soit parce que on a trouvé un comportement bizarre de la personne, soit que quelqu'un qui a été chez elle a vu peut-être des herbes.
La pratique de la médecine,
effectivement, parce que sorcière, guérisseuse, etc., on mélange souvent un petit peu tout ça. Alors c'est là où on en vient aussi à la question de la bonne sorcière et de la mauvaise sorcière. Les bonnes sorcières, c'est celles qui guérissent, qui font le bien. Et puis il y a les mauvaises sorcières, c'est celles qui évidemment sont alliées avec le diable, se rendent au sabbat, et puis jettent le mauvais sort. Hein. On a des techniques pour s'en protéger aussi, hein, du mauvais sort des sorcières. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui arrive et qu'on estime être une sorcière, on retrousse ses manches. Hein, ou alors, on tourne son manteau, si on en a un, son manteau à l'envers. Hein, ça permet de rejeter le sort. Voilà. Mais tout ça, c'est des superstitions.
Est-ce que vous pensez que c'était une manière aussi de stigmatiser les femmes en général, de les diaboliser ?
Oui, mais c'est sûr. Bon, déjà, effectivement, c'est peut-être plus facile de diaboliser une femme qu'un homme, hein, à cette époque-là, et même encore, je veux dire, jusqu'au 19e siècle, sachant que les femmes... ont quasiment aucun droit hein, dans cette société, dans cette société-là. Donc c'est peut-être plus facile. Et puis attention, les femmes, hein, vous m'excuserez de dire ça, mais surtout à cette époque, c'est encore quand même le péché, hein, vu par l'Église, etc. Donc le péché, la sorcellerie, le rapport avec le diable, etc., tout ça est évidemment lié. La raison pour laquelle je pense qu'il y a eu beaucoup plus de sorcières hein, que de sorciers. Il y a plein de choses. Par exemple, les fées qu'on peut aussi assimiler aux sorcières, du moins les mauvaises fées, qu'on appelle aussi des fadarelles. Hein. Et les fadarelles, c'est lié, même si on ne s'en rend pas compte au premier coup d'œil, c'est lié au mot fada. Le fada, ben c'est un peu l'idiot du village. Et pourquoi il est idiot et pourquoi on l'appelle comme ça le fada? Ben parce que on estime que c'est l'union hein, entre le diable hein, et une femme. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui donc sort effectivement de la norme, hein. Et les sorcières, c'est un peu la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui sort de la norme de la société, je l'ai dit, parce que physiquement, elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle vit différemment, différemment des autres, elle vit un peu à marge de la société, donc automatiquement, on la montre du doigt, hein, et donc automatiquement, elle ne fait pas les choses comme les autres. Donc elle est soupçonnable hein, et soupçonnée.
Vous pensez que ça a joué un rôle politique pendant l'Inquisition, la chasse aux sorcières ?
Non, je ne pense pas. C'était surtout mené par l'Église, hein, essentiellement. Je crois qu'on était dans la continuité hein, de la lutte, effectivement, contre les hérésies, hein, et notamment, évidemment, dans notre région, le catharisme. Donc, c'était une continuité. Ça peut être aussi assimilé à la forme de... La femme de mauvaise vie, hein, on peut assimiler aussi,
oui,
hein,
voilà,
hein,
oui.
La sorcière, tout ça, c'est un petit peu les mêmes rapports. Et pour l'Église, encore une fois, la femme, c'est le péché. Hein, donc, on doit la traduire en tant que telle. Hein, voilà. Bon, à cette époque-là, après, évidemment, ça a changé. Je peux peut-être vous lire
oui.
Juste un petit paragraphe.
Oui.
Alors là, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus récent. Hein. C'est Caligiou, là, l'écrivain aveyronnaise, qui raconte au début du XXe siècle que dans son village, il y avait encore des sorcières. Voilà ce qu'elle dit, rien qu'un petit passage. C'est à Cransac que j'ai vu la tatapoule. Elle déambulait par les rues, portant ses deux paniers recouverts d'une étoffe noire, l'un sur la tête, l'autre au bras. Dans le premier, il y avait, disait-on, une poule noire. Dans l'autre, un chat noir qu'elle appelait Minuit. Grande et maigre, comme un échalas, on la voyait arriver de loin. Dès qu'elle apparaissait, la tatapoule criait quelqu'un. Les mamans rappelaient leurs marmots, les portes se fermaient à grand bruit, et les passants retournaient leurs manches pour se garder du mauvais œil. Voilà, donc on a vraiment aussi un témoignage hein, qui permet de voir qu'encore à cette époque-là, il y a encore des superstitions par rapport aux sorcières. Voilà, et les enquêtes qui ont eu lieu au début du XXe siècle le font ressortir, même si elles ne sont pas non plus en très grand nombre. Hein, voilà.
Et pourquoi vous pensez qu'il y en a eu plus, par exemple, vers Millau que... Non, non, Aveyron, ça c'est...
C'est une bonne question. Alors, est-ce que ça viendrait pas peut-être du fait que dans la région de Millau, dans la région de Sainte-Afrique, le protestantisme, hein, notamment, hein, était beaucoup plus impliqué que, par exemple, sur le nord de l'Aveyron, où le protestantisme n'est quasiment pas arrivé, hein, alors qu'il était quand même très implanté dans le sud d'Aveyron. Donc, est-ce que ce n'était pas aussi une lutte par rapport à ça? C'est possible, hein, où l'Église était déjà peut-être plus présente et donc plus sévère, hein, pour... je ne sais pas comment on peut dire ça, mais pour faire des exemples hein, aussi, très certainement. Mais on est à la jonction un petit peu aussi de
Et c'est
de,
à quelle
de
époque, hein, là où on retrouve le plus de
On en a au début du XIVe siècle, on en a au XVe siècle, c'est-à-dire vraiment la période où l'Europe s'embrase effectivement de bûchers. Vous voulez notre histoire?
Oui.
Alors, attendez, je vais trouver. Vous voulez une histoire dans la région de Millau?
Allez.
Celle-là. Donc, il y avait des juges, qu'on appelait des juges inquisiteurs, donc qui étaient chargés des procès de sorcellerie. Et voilà ce qui se dit sur un document. Les juges inquisiteurs avaient beau jeu d'obtenir des dépositions insupportables au commun des mortels. Ainsi, Béatrix Brendier avoua qu'elle préparait des poudres au nom des diables Bécher et Baraban, qu'elle et son mari tenaient ces poudres magiques dans un pot sur la cuve vinaire de leur maison. Une autre de Millau prétendit que le diable l'avait transportée sur une montagne et qu'elle entrait dans des maisons dont la porte était close. Ce genre d'aveu. On comprend bien que sous la torture, on pouvait avouer. Il y avait une torture notamment qui était relativement sophistiquée. C'était le supplice de l'estrapade, qu'on utilisait beaucoup à cette époque-là. Par exemple, en 1444, la boiteuse Mabille, vous voyez la boiteuse, donc quelqu'un qui est différent un petit peu des autres, fut suspendue à l'aide d'une corde par les bras, le bourreau attacha un poids à ses pieds, comme elle refusait toujours d'avouer, l'exécuteur détendit brusquement la corde, et le corps de la sorcière vint se disloquer sur le sol. Et donc, certainement que là, elle a avoué sa faute, malgré peut-être qu'elle était innocente.
Dévaste-moi et souffle-moi, envahis-moi et pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
Bon, avant de se quitter, une petite recette, et pour vous agrandir les oreilles, oui. Après, vous profiterez pleinement de Radio Sainte-Afrique. Des consommations, hein. Alors, pour le goût, 3 langues de vipère.
100 grammes de poudre de queue de requin.
1 litre de jus de verrue de sorcière.
5 gouttes de venin de miguel.
6 rondelles de museau de loup.
4 queues de lézard, pour l'odeur.
10 crottes de fourmis.
2 bols de pipitian.
7 grammes de bouse de vache. Pour le croustillant.
4 griffes de chat noir.
10 pattes de mouche.
7 dents de taureau.
4 pinces de scorpion.
Une pincée de poils de mouton.
8 grammes de coquilles de moule écrasées.
3 morceaux de bois de serre.
9 tentacules de limace.
Pour que ça glisse mieux, une méduse entière. Pour la garniture,
4 toiles d'araignée, et ça suffira pour faire une bonne tambouille.
Bye bye, au mois prochain.
Du monde, qu'elle soit fine ou ronde, coureur de jupons, ouais. Je voulais les petites, les grandes, les brunes et les blondes qui pétaient la forme, ouais. Mais un jour, une reine sur son trône ornait sa couronne, vient pour me faire fondre, et c'est l'hécatombe. Coureur de jupons, je dépasse les armes et conquise cette